et Maude Gauthier-Massé du Comité des personnes assistées sociales de Montréal pour nous parler du sous-financement des groupes de défense collective des droits et nous révéler des résultats de sondages disponibles depuis hier. On reçoit ensuite Rosana Bruzzone, directrice générale et fondatrice de Montréal la plus heureuse, pour nous parler du Festival du bonheur qui aura lieu à la fin mars. Et finalement, Julie Doré, associée directrice chez BCF Avocat d'affaires et Mario Lefebvre, économiste associée chez Aviseo Conseil. Ils sont ici pour discuter des résultats d'une étude récemment menée par leur firme qui analyse les impacts des tarifs douaniers sur les entreprises québécoises. Mais avant, pour la revue de presse du jour, la presse publie un dossier ce matin sur le sujet. Depuis plus de 10 ans, le Québec peine à recouvrer les amendes imposées pour fraude fiscale et crimes financiers. Malgré des sanctions de centaines de milliers de dollars, une grande partie des contrevenants, comme Robert Parent, réussit à éviter de payer, souvent en effectuant des travaux communautaires au lieu de régler les amendes. Ce phénomène soulève des doutes sur l'efficacité du système de justice pour dissuader de tels crimes. Ça fait aussi beaucoup parler présentement. Québec impose désormais un plafond sur le nombre d'étudiants étrangers dans les cégeps et universités. Le gouvernement réduit de 20 % le nombre de certificats d'acceptation du Québec délivrés, ciblant particulièrement les collèges privés et les formations courtes comme les AEC. L'objectif est de freiner l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers qui a explosé ces dernières années. Les programmes dans des secteurs comme la santé, l'éducation, l'aviation ainsi que ceux en région ne seront pas affectés par cette réduction. Toujours du côté provincial, Santé Québec a réussi à réduire les listes d'attente en chirurgie. Entre novembre 2024 et février 2025, 2283 patients ont été opérés plus rapidement. Actuellement, plus de 153 000 patients attendent, dont 7 734 depuis plus d'un an. L'objectif est de réduire ce nombre à 2300 d'ici la fin mars 2025. Des ajustements dans l'organisation des blocs opératoires et une collaboration avec le secteur privé sont en place pour améliorer la situation. Et finalement, du côté de notre ville de Montréal, dernier suivi quant au déneigement à Montréal maintenant. Certains arrondissements de Montréal sont plus rapides que d'autres pour le déneigement et plusieurs facteurs expliquent ces écarts. Par exemple, la longueur des rues varie grandement entre les arrondissements, de 30 à 728 km, donc grosse différence. Des zones comme Verdun et La Salle, avec des interdictions de stationnement hivernal, bénéficient d'une efficacité accrue. Et des secteurs plus congestionnés comme Ville-Marie subissent des ralentissements à cause du trafic. Et finalement, pour clore cette revue de presse, toujours du côté de Montréal, l'UQAM propose un ambitieux plan de relance du quartier latin de 264 millions sur 5 ans, visant à stimuler le développement économique et améliorer l'infrastructure du secteur. Le projet inclut la rénovation de la bibliothèque centrale, l'agrandissement du centre sportif et la création de logements étudiants. L'université souhaite également stimuler l'économie locale via un programme d'appariement des dons et l'introduction d'un passeport quartier latin pour offrir des rabais. Ces initiatives visent à dynamiser le quartier latin tout en valorisant son charme. Alors, on passe maintenant en musique avec « Il y a de la joie » de Charles Trenet et on revient avec Rosana Bruzzone.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris-boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie. Le percepteur, message à quête, pli boutique.
et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Vous êtes dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal, diffusée sur les ondes de CIBL. Florence Aquilina au micro. On reste dans la thématique « Il y a de la joie ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Rossana Bruzzone, directrice générale et fondatrice de Montréal la plus heureuse.
Bonjour!
Bonjour! Elle est ici pour nous parler de l'édition 2025 du Festival du bonheur de Montréal et de la mission aussi de son organisme. On va avoir la chance de commencer avec ça. Le festival revient du 20 au 27 mars sous le signe des rencontres heureuses avec des programmations riches d'événements allant de la soirée du lancement à des projections de films. Merci beaucoup, Rossana, d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Ben, je voudrais justement commencer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas votre organisation, Montréal la plus heureuse, c'est quoi son mandat? C'est quoi vos objectifs?
Oui, alors notre mission, c'est de propager la joie dans les médias et lors d'événements. Et on est né en 2018 à la suite d'un projet qu'on avait fait en 2017, Montréal, la ville la plus heureuse au monde. Donc, on avait réalisé un documentaire avec deux complices, Franck Bio et Christian Wirth. On avait interviewé 150 personnes qui répondaient à la question « Pourquoi es-tu heureuse à Montréal ?» Puis, c'était l'anniversaire de Montréal, le 375e. Il y a eu beaucoup de participation. On a fait le cri de joie au Mont-Royal. Donc, on était environ 200 à crier tous ensemble « Montréal est la ville la plus heureuse au monde ». Et on peut dire que ça a été un peu le premier événement. Puis après, dès qu'on a été fondé, notre premier événement a été le Festival du Bonheur de Montréal qui est né en 2019. Et puis, maintenant, on a aussi le festival Novembre en couleur avec des manifestations de joie partout dans la ville. On en a fait une justement ici en collaboration avec le Centre de mémoire montréalaise, avec la fanfarjerie. On a marché dans les centrales, puis sur l'esplanade tranquille, novembre 2024. Okay. Puis on a l'expression de joie du temps des fêtes. Qu'on a fait l'année passée, en décembre. Et puis, il y a quelque chose, je ne sais pas si j'ai encore le droit d'en parler, mais quelque chose qui s'en vient pour la rentrée.
OK! On reste à l'affût. Oui. Mais on pourrait dire que c'est quand même des temps difficiles pour certains parce que dans les nouvelles, ça va pas. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Le monde ne va pas nécessairement globalement bien. C'est l'hiver, il fait froid, et peut-être plus d'isolement. Donc, j'imagine qu'un festival comme le Festival du Bonheur s'insère dans une démarche de propager la joie dans des temps où peut-être que c'est difficile de trouver la joie.
Oui, puis quand il a été conçu, l'idée, on avait deux objectifs. Un objectif, c'était de nous insérer dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Oui. Donc, la promotion du multiculturalisme va dans cette direction, par le biais de la joie, du bonheur. Et aussi, l'autre objectif, c'était d'aider les personnes à vivre une phase de transition. Parce que le mois de mars, on vient de l'hiver, normalement, le verglas, les tempêtes de neige, etc. Et pour certaines personnes, c'est vraiment difficile. Donc, on s'est dit, on va le caler à mars pour cette raison. C'est un mois, tu sais, en été, il y a plein de choses.
Ouais.
Mais à mars, il y a, bah, à Montréal, il y a toujours des festivals, des événements. Mais disons que le mois de mars, c'est peut-être moins riche comparé au mois d'été. Et donc, on s'est dit, on va le mettre là.
OK, OK. Donc, c'est voulu propager la joie en cette période hivernale, un peu de chaleur. Ben, parlons-en de ce festival du bonheur. Comme je disais, il revient pour sa 6e édition. Tu nous parles un peu de la programmation, à quoi on peut s'attendre?
Oui, alors on va commencer le 20 mars, qui est la journée internationale du bonheur, et on va célébrer le bonheur au Rialto.
Okay.
Dans le Myland, sur l'avenue du parc, on va être dans la salle cabaret qui est accessible à toutes les personnes à mobilité réduite, c'est vraiment. Et là, on va avoir une soirée d'humour. Donc, cette année, la thématique, c'est les rencontres heureuses sous les signes de l'humour. Donc, l'année passée, c'était surtout des musiciens. Cette année, c'est des comédiens. Donc, on va voir Gisèle et Peter, qui sont deux comédiens qui se sont rencontrés par le biais de Diversité artistique Montréal, qui vont nous présenter vraiment quelque chose de nouveau, complètement original, très, très, très drôle sur les rencontres sous les signes des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Donc, ça va être... Puis, on va voir les productions L'Instable qui vont faire une improvisation théâtrale sur la thématique des rencontres multiculturelles heureuses. Et puis on va voir Cathy Fuoco, qui est une comédienne qu'on a déjà connue l'année passée et qui va faire un stand-up. Et Mélanie Athénéa également, c'est une musicienne danseuse. Et cette année, elle nous propose un monologue complètement inédit. Donc
okay. On
a fait rencontrer aussi les artistes. Donc, on cherche à faire des mélanges de contamination, des dialogues entre les artistes, des improvisations sur scène. Ça va être très drôle. Et on va voir un cocktail grâce à notre partenaire de À l'essentiel. Tout est gratuit. La programmation est gratuite.
OK. Rencontre plus heureuse prend vraiment son sens. Parce qu'il y a une rencontre aussi entre les participants, mais entre les artistes, les comédiens également.
Exact.
J'ai vu aussi qu'il y avait un appel pour les courts-métrages. Il va y avoir
des projections. Ouais. Ah oui. Merci de le rappeler parce que le 23, on va être dimanche 23 mars à 14h, on va être même au Centre Mémoire Montréalaise, notre cher partenaire. Dans leur salle cabaret, on va projeter des courts-métrages réalisés par des jeunes.
Okay.
Donc, si vous êtes un jeune cinéaste en herbe, pas un professionnel, à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 25 ans, et que vous avez réalisé un court-métrage qui est en lien avec cette thématique des rencontres, et puis spécialement des rencontres entre les cultures. Et alors, on vous invite jusqu'au 3 mars à nous envoyer votre court-métrage de 1 minute jusqu'à 20 minutes. Il y aura un jury qui choisira les cours à projeter.
Okay.
Et d'ailleurs, il y aura aussi la projection d'un film, d'un court-métrage qui l'année passée a reçu la mention Festival du Bonheur, réalisé par l'école Félix Leclerc.
Okay.
Donc, ça va être très, très drôle. C'était déjà dans le thème de l'humour. On était déjà là quand on l'a choisi, oui.
Pour revenir à la mission assez unique de Montréal la plus heureuse, parce que vous avez également mentionné le fait que le festival s'insère dans la semaine contre la discrimination et le racisme.
Oui, oui.
Parmi vos missions, on met vraiment l'accent sur l'inclusion, l'entraide, le partage, avec une attention particulière portée aux populations vulnérables.
Exact.
C'est important pour vous de propager la joie au sein des populations où ça pourrait être justement plus difficile de la retrouver?
Oui, tout à fait. Mmh. Justement, par exemple, nos ambassadeurs et ambassadrices du bonheur, c'est des personnes en partie aînés, donc ou vulnérables. Là où vulnérable, ça ne veut pas forcément dire moins heureuse, tu vois, parce que des fois, on associe le bonheur à des résultats, mais ce n'est pas toujours le cas, dans le sens que, à l'origine, quand on a fait notre documentaire, on s'est rendu compte que des personnes qui avaient participé et avaient raconté leur raison d'être heureuse à Montréal n'étaient pas forcément des personnes qui étaient arrivées selon certains critères. Mais réussir sa vie, ça veut dire réussir son cœur, hein, réussir son cœur profond, sa mission qui n'est pas toujours de construire des châteaux. Ouais. Donc, c'est ça. Et à ce propos, on encourage vraiment les personnes qui veulent être bénévoles, ambassadeurs, ambassadrices du bonheur. Nous, les bénévoles, on les appelle comme ça, à nous écrire à info@mtl.montreallaplusheureuse.org parce que on va faire bientôt une rencontre des ambassadeurs du bonheur le 6 mars. Donc, on va voir vraiment de quelle manière vous allez pouvoir contribuer en étant à l'accueil, au moins en faisant rayonner les événements.
Donc, vous travaillez avec des bénévoles,
oui,
pour faire fonctionner votre organisation, mais on va quand même parler financement parce que vous avez lancé, oui, une campagne de financement participatif.
L'année passée, on l'a fait.
L'année passée.
Oui, 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 oui. L'année passée, justement, on a eu une campagne de financement participatif parce que c'était la 5e édition. Donc, ouais, on voulait vraiment la propulser. Puis, nos bailleurs de fonds, ben, pratiquement depuis la première édition, on a eu la contribution financière de Patrimoine Canada. Puis, pendant plusieurs années, de la Ville de Montréal. Maintenant, la Ville de Montréal nous soutient pour Novembre en couleur et nous a soutenu aussi pour l'expression de joie du temps des fêtes. Puis on a la Fondation Luc Maurice, la Fondation de la famille Brian Bronfman qui nous a soutenu dernièrement pour l'expression de joie du temps des fêtes. Donc disons que, par contre, c'est intéressant que tu aies souligné ça parce que notre première source de financement a été le financement participatif, même en 2017, parce que quand on devait réaliser le documentaire, on n'était pas encore une OBNL, donc on n'avait pas le droit de demander en tant qu'OBNL certaines subventions.
Okay.
Et donc, on avait lancé une campagne de sociofinancement et je veux dire qu'on avait peut-être fait ce qui pourrait paraître une erreur parce qu'on avait mis l'objectif de 15 000 parce qu'on devait effectivement payer le monteur, les chansons originales, etc. Mais en même temps, si on allait perdre, si on n'allait pas rejoindre l'objectif, on allait tout perdre. Donc, à un moment donné, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, c'est là qu'on est allé chercher beaucoup de renforts, beaucoup d'ambassadeurs du bonheur qui nous ont aidés.
Okay.
Et donc, au final, ce qui pouvait apparaître comme une erreur, ça a révélé une force parce que nous a poussé à aller plus loin. Donc, c'est ça aussi notre message, qu'il y a toujours la possibilité de rebondir. Il ne faut pas être parfait pour être heureux ou pour faire de bonnes choses.
Ouais. Peut-être pour terminer cette entrevue, j'aimerais te demander, Rosanna, est-ce que toi, tu penses réellement que Montréal, c'est la ville la plus heureuse?
Oui, moi, je le pense fort. Je pense, tu sais pourquoi? Parce que Montréal, c'est la ville des rencontres. Moi, depuis que je suis arrivée, ça a été super facile de rencontrer du monde, de parler avec les personnes. C'est une métropole très singulière parce que c'est une métropole qui a une vocation de village également. Donc, il y a les événements culturels, il y a la propulsion de l'art d'une grande métropole et en même temps, il y a cette dimension humaine très forte. Et c'est ça qui fait de Montréal la ville vraiment la plus heureuse. Moi, j'y crois fort.
Merci beaucoup, Rosanna, d'avoir été avec nous.
Merci.
À titre de rappel, comme je disais, le Festival du bonheur aura lieu entre le 20 et le 27 mars.
Oui.
Et entre autres au Théâtre Rialto.
Oui, merci. Et vous pouvez aller voir la programmation sur notre page Facebook MTL La Plus Heureuse et sur notre site mtllaplusheureuse.org.
Merci beaucoup,
merci
Madonna.
À toi.
On passe maintenant en musique avec L'Uomo della Natura de Astrolabe et on vous revient avec notre deuxième entrevue.
Si je pouvais modifier le passé, je ne sais pas ce que j'aimerais changer. Et quand je pense au futur, ça me fait flipper. Quand je replonge en arrière, je ne vois que du flou, des images transformées. Comment savoir si c'est vrai ou imaginé? We'll be right back.
Vous êtes sur les ondes de CIBL dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal. Nous avons le plaisir d'accueillir Julie Doré, associée directrice chez BCF Avocats d'affaires, et Mario Lefebvre, économiste associé chez Avisio Conseil. Ils sont ici pour discuter des résultats d'une étude récemment menée par leur firme qui analyse les impacts des tarifs douaniers sur les entreprises québécoises, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre présentement dans les médias. Merci à vous deux d'être ici aujourd'hui pour nous en parler.
Merci à vous de nous recevoir.
Merci. D'abord, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi les résultats principaux de cette étude-là? Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir?
Si on veut parler résultats, on va plonger tout de suite et se dire qu'il y a des bonnes nouvelles à travers les mauvaises.
OK.
Le point de départ ne sera pas bon. L'impact immédiat des tarifs va être négatif. On ne s'en cache pas. Particulièrement négatif pour certaines industries, mais il n'y aura personne d'immunisé. Ce qu'on trouve intéressant dans l'étude, c'est qu'on identifie des pistes de solutions très claires qui vont nous permettre de se remettre à terme, il y aura un certain temps, parce qu'on parle ici de conquête de nouveaux marchés, on parle d'améliorer notre productivité, de peut-être travailler sur les barrières, les obstacles au commerce entre les provinces, bref. Mais il y a des solutions, et ça, pour nous, c'est la bonne nouvelle.
Et on va y revenir sur les solutions, mais pour l'instant, on va quand même parler peut-être plus problématique pour comprendre la situation. Julie, dans le cadre de l'étude, justement, il est mentionné que certains secteurs sont plus vulnérables face aux tarifs douaniers américains. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'aperçu? Je sais qu'on parle beaucoup de l'aluminium, mais il y en a d'autres aussi qui vont être particulièrement affectés.
Absolument. Il y a d'autres secteurs qui sont à risque. L'étude, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle s'est d'abord attardée aux produits les plus vulnérables et par la suite, on a été en mesure de venir là, identifier les secteurs auxquels les produits sont rattachés. Donc, si on exclut l'aluminium, là, on parle d'industries là, qui sont plus vulnérables et plus dépendantes aux États-Unis. On va parler des produits aérospatiaux, produits de transformation de métaux non ferreux à l'exclusion de l'aluminium, la fabrication de sucre et de confiserie, qui est un peu une surprise pour nous dans l'étude, ouais. Fabrication de produits de bois, usines de pâte et papier, fabrication de véhicules automobiles, fabrication de pièces pour véhicules automobiles et finalement, fabrication de produits chimiques de base, là, qui sont les secteurs les plus à risque. Dans un scénario plus extrême où des tarifs s'appliqueraient sur la totalité des produits de ces industries-là et la totalité de l'exportation était touchée, on parle quand même de 100 000 emplois, malheureusement, qui peuvent être à terme touchés au Québec. Donc, c'est sûr que les conséquences sont importantes.
Pour revenir au secteur de l'aluminium, parce que c'est quand même important, c'est un secteur, justement, on l'adresse beaucoup dans les médias, parce qu'il y a une forte dépendance au niveau des États-Unis. Mario, ça, c'est un point aussi que tu as adressé dans un article de la presse, du moins, tu as été cité. Un point majeur de l'étude, c'est la dépendance des États-Unis à l'aluminium québécois. Et vous suggérez que cette relation pourrait modérer l'impact des tarifs. Est-ce que tu peux élaborer?
Oui, absolument, parce que c'est une chose d'identifier les grands exportateurs et de tout de suite tirer une conclusion rapide qui dit, bon, ben c'est les grands exportateurs, c'est eux les plus à risque. C'est vrai, mais il y a d'autres choses à regarder. Il faut regarder la dépendance tant de notre production vers l'exportation américaine, mais aussi dépendance américaine pour nos produits. Et dans le cas des États-Unis, la dépendance envers l'aluminium québécois est très imposante. Pour s'en passer, il faudrait qu'ils augmentent leur capacité de production de 70 %. C'est pas demain la veille que ça va arriver.
C'est énorme.
Il y a des produits d'aluminium que les Américains ne fabriquent pas du tout en ce moment et qu'ils importent de nous. Donc, avant qu'ils mettent tout ça en place, bonne chance. Et c'est pas automatique. Et d'ailleurs, il y a une étude qui, hier, disait que l'imposition de tarifs sur l'aluminium canadien aurait des impacts fortement négatifs sur l'économie américaine. Et ça, j'en suis absolument pas surpris, parce que la dépendance va des deux côtés. Donc oui, l'aluminium est à risque, mais attention, un risque qui peut être modéré, comme vous l'avez dit, par le fait que les Américains en dépendent beaucoup.
OK. Ma prochaine question est adressée à vous deux. Donc, l'étude évalue également les répercussions potentielles de ces tarifs sur le PIB du Québec. Donc, on parle quand même d'une dépendance, mais il va inévitablement avoir un impact sur le Québec, estimant qu'une baisse de 2 % pourrait survenir. Ça serait quoi les effets directs sur l'économie québécoise, notamment en termes d'emploi, de croissance, etc.?
Comme Julie l'exprimait tantôt, au total, il va falloir garder l'œil sur à peu près 100 000 emplois, qui est 2,3 % de l'emploi au Québec. et 4 % du PIB. L'imposition de 25 % de tarifs ne veut pas dire que ces 100 000 emplois disparaissent demain et que ce 4 % du PIB disparaît demain. Comme on vient de le dire pour l'aluminium, on va continuer d'en exporter, comme d'autres de ces produits. Mais il va falloir garder l'œil là-dessus. D'autres secteurs qui sont plus difficiles à capter ici vont aussi être impactés, fournisseurs auprès de ces secteurs-là. Donc, l'impact économique comme tel, nous, on ne l'a pas chiffré, mais les gens qui le font situent ça quelque part autour de 2 à 3 % du PIB. Donc, il y aura une bonne plongée dès le départ. Et c'est sûr que ça va se passer pour l'essentiel dans le secteur manufacturier. Mais encore une fois, je demande à voir la réaction américaine pour certains de nos produits. Pour moi, ce n'est pas encore clair. Attendons le 4 mars aussi pour voir si effectivement on va aller de l'avant. Mais dans le cas où on va aller de l'avant, il y aura des impacts négatifs, clairement.
Mais là, on a parlé problématique. Je veux revenir, en fait, à la question des solutions. L'étude propose la diversification comme une réponse stratégique, notamment pour les entreprises québécoises. Selon vos résultats, c'est quoi les marchés alternatifs? Juste élaborer vraiment sur la question de la diversification.
Bien, ce qui est plaisant dans cette étude-là, et là, je crois que je t'ai coupé, Julie, pardon. Mais ce qui est plaisant dans cette étude-là, c'est qu'on a cherché des marchés alternatifs pour chacun des produits à risque. Et on en a trouvé. Et ça, on a trouvé ça fascinant. Parfois, c'est la zone européenne. Parfois, c'est le Mexique, le Canada. Donc, on a trouvé des marchés alternatifs. Évidemment, ce n'est pas aussi simple de tout simplement dire, bon, on arrête d'envoyer nos choses aux États-Unis, on les envoie dans ces marchés alternatifs, ils font déjà venir leurs produits d'ailleurs. C'est là où on va devoir aller à la conquête et c'est là où ça va prendre du travail de plus longue haleine. Et Julie, tu veux peut-être parler
oui,
de
productivité. Oui, tu veux peut-être rajouter quelque chose. Oui, puis moi, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, Mario, c'est que l'étude démontre aussi qu'il y a quand même 30 % des exportations du Québec qui s'en vont dans d'autres provinces canadiennes. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas anecdotique comme pourcentage. Et évidemment, le reste du Canada, par sa grosseur, ne peut pas compenser pour 350 millions de consommateurs américains. Mais quand même, il y a probablement une portion de la solution au niveau de la diversification aussi ailleurs dans le reste du Canada. Pour conquérir de nouveaux marchés, c'est important que notre productivité et notre innovation soient à son meilleur. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas au Québec. On le sait, en termes de productivité, on n'arrive pas nécessairement les premiers de classe. Donc, il faudra trouver une façon de permettre aux entreprises de réinvestir en innovation pour accroître la productivité. La productivité, ça ne veut pas dire de demander aux gens de travailler 5 heures de plus par semaine. Ça veut dire améliorer nos processus. Ça veut dire innover avec de nouvelles technologies. Donc, ce sera très, très, très important de mettre des mesures en place pour être capable de faire ça, permettre aux entreprises de faire ça. Est-ce qu'une réduction de la charge fiscale et un allègement de la bureaucratie pour les entreprises peut-être une piste de solution? On le soulève. Mario, peut-être que tu peux compléter là, sur la fiscalité.
Oui, non, absolument. Lorsqu'on se compare, par exemple, aux pays de l'OCDE, la charge fiscale de nos entreprises au Québec, elle est plus élevée. Pas du simple au double, mais elle est plus élevée. Donc, ça pourrait permettre à nos entreprises de respirer un peu là, si on avait un allègement de ce fardeau-là le jour où ces tarifs seraient mis en place, ou en tout cas le lendemain, pour pouvoir permettre à nos entreprises justement d'investir, de se refaire une beauté pour partir à la conquête de nouveaux marchés.
Je vais revenir sur comment alléger les taxes exactement, mais comme relance, Julie, je voulais te demander à quelle vitesse, tu parlais de productivité, à quelle vitesse tu penses que les entreprises peuvent réagir à cette nécessité de diversification?
Ça aussi, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il n'y a aucune des solutions qui est une solution miracle et quand on se dit, dans 24 heures, on a réussi à rattraper là, l'effet négatif des tarifs. Mais par contre, on peut, avec des dollars d'aujourd'hui, en prenant des mesures aujourd'hui, préparer demain. Mais c'est certain qu'on parle d'une certaine période de temps. Ça va prendre quelques années avant d'augmenter de manière substantielle la productivité. Mais on peut commencer à le faire aujourd'hui.
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Mario?
Non, mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'on avait peut-être besoin de cet électrochoc. On a été, je dirais pas complaisant, le mot serait un peu fort, mais le marché américain est un marché facile pour nous. C'est le marché voisin, c'est 350 millions de consommateurs. Notre dollar par moment a été très bas, donc ça soutenait notre compétitivité de façon un peu artificielle parce que nos produits aux États-Unis se vendaient alors moins cher. Donc, ça sonnait à la porte. On nous demandait de nos produits. On leur en envoyait. Mais là, maintenant, on a cet électrochoc. Et je pense que les entreprises le réalisent. Il y a quelqu'un hier dans l'événement qui a utilisé l'analogie du vélo. On faisait du vélo sur une belle piste d'eau, c'est tranquille, avec un petit peu de vent dans le dos. Ça allait bien. Mais là, maintenant, on a une pente à monter et on se rend compte qu'on n'a peut-être pas les jambes. Donc, il faut se faire les jambes. Et quand vous voulez vous faire les jambes en exercice, bien, ça vient à la longue. C'est pas du jour au lendemain. Donc, je pense que nos entreprises doivent se préparer à monter une petite pente.
Tu penses que le marché québécois avait besoin de cet électrochoc-là?
On dirait que oui, parce que lorsqu'on regarde les données de productivité... C'est pas qu'on est moins bon que les autres. On a tous les cerveaux, on a l'éducation, on a tout. Pourtant, nos statistiques en matière de productivité, nos statistiques en matière d'investissement des entreprises est un peu moindre qu'ailleurs. Et donc, ça, au fil des années, ben, ça a fait en sorte que notre productivité est tombée un petit peu à la traîne. Et là, maintenant, il faut se remettre en beauté.
Oui. Oh, tu voulais rajouter quelque chose?
En fait, je dirais qu'on ose espérer que, application de tarifs ou pas, à plus petite ou plus grande échelle, on a la conviction que la réflexion qui a été provoquée, tu sais, chez les entreprises, les financiers, les institutions, le gouvernement, sera bénéfique pour le Québec, c'est certain. On ne pense pas, même s'il n'y avait pas d'application de tarifs ou que c'était beaucoup moins fort que ce qu'on craint, on ne pense pas que la prise de conscience là, qui nous arrive va tomber lettre morte. Là. On est convaincus que ça va aider l'économie du Québec à long terme.
À long terme, mais c'est ça. On parlait du coup dur que ça peut avoir sur le court terme. Donc, je veux revenir aux pistes de solutions parce qu'on parlait aussi de la charge fiscale, donc alléger les taxes. Je voulais savoir comment concrètement alléger les taxes et offrir plus de soutien aux institutions publiques.
Bien, parmi les solutions à envisager, c'est certain que si on donnait un allègement fiscal aux entreprises pour leur permettre de réinvestir une plus grande part de leurs profits en innovation, ça pourrait être une piste de solution intéressante. Le fardeau fiscal est important au Québec, on va se le dire. Les entreprises, à chaque année, voient l'argent dans leur poche qui reste là, pour réinvestir, diminuer un peu davantage. Donc, c'est certain que s'il y avait un congé fiscal pour une portion... pour les entreprises qui s'engagent à réinvestir en innovation, en automatisation, pour améliorer leur productivité, ça pourrait être un geste concret posé rapidement. Puis on a parlé tout à l'heure là, de l'importance d'agir rapidement pour préparer le futur. C'est certain que ça, c'est des mesures qui pourraient être mises en place rapidement puis qui pourraient permettre aux entreprises d'entreprendre le virage tout de suite.
Et ça aurait un impact positif concrètement sur le court terme pour les entreprises?
Plus court terme. Pas demain matin, mais des investissements en innovation, dans certains cas, peuvent donner des résultats quand même dans un horizon de quelques mois. C'est pas toujours quelques années. Là. Il y a des processus d'innovation qui sont plus rapides à mettre en place que d'autres.
Pour terminer, Mario, selon l'article de la presse, il est suggéré que le gouvernement et les institutions publiques collaborent davantage. Ça aussi, c'est une autre piste de solution pour soutenir les entreprises. Donc, en termes d'action concrète, encore une fois, il est question de quoi exactement?
Bien, d'encourager l'innovation, ça peut passer par des crédits d'impôt à l'innovation. Si on ne veut pas baisser les taux de taxation, d'accord, baissons-les pas, mais accordons alors des crédits d'impôt à l'innovation, pour vraiment faire en sorte que les entreprises désirent payer moins d'impôts. Puis je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui n'aiment pas ça, payer moins d'impôts, vont passer par l'innovation pour obtenir les fameux crédits d'impôt. Mais l'autre chose, on parlait tantôt de solutions qui pourraient marcher assez rapidement, les barrières non tarifaires entre les provinces. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis il est plus que temps qu'on les attaque. Et j'ai appris, on apprend toujours quand on fait des études comme ça, et tant mieux si je n'ai pas fini d'apprendre, mais ce constat de voir que 29 % de nos exportations s'en allaient au reste du Canada, moi, personnellement, je voyais ça comme beaucoup plus petit. J'étais surpris du 29. J'ai même fait double vérifier les chiffres par mon équipe pour être certain. Mais 29 %, on expédie déjà beaucoup de choses ailleurs au Canada. Si ces barrières-là étaient abaissées, on a peut-être des chances qu'on pourrait aller assez rapidement pour en exporter davantage. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel les gouvernements provinciaux là, devraient se pencher. Et ça, ça pourrait aller assez rapidement. Parce que tantôt, vous parliez de qu'est-ce qui pourrait aller assez vite. Ça, ça pourrait être une des avenues.
Une solution sur le court terme. Bien, merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Mario.
Merci. Merci à vous.
On va faire une courte pause et on revient avec notre dernière entrevue de l'émission.
Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la découverte de nouveaux talents avec la vitrine musicale Les Silidors de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 9 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 18e édition des Silidors de la musique du monde à découvrir sur www.silidors.com et sur Facebook et Instagram.
Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous convie à Montréal et Jazz Manouche Plus, une série de rencontres avec les musiciens et musiciennes de Jazz Manouche et des musiques apparentées. Il s'agit de la version 2.0 de l'émission Django et compagnie, diffusée sur CIBL 101.5. Vous êtes donc invités à découvrir les acteurs et les actrices de la version locale de cette musique qui swing, Montréal et Jazz Manouche Plus, les mercredis, 20h.
S'enfuira dans un train de nuit.
Rejoignez-moi, Francis Desilets, pour une émission captivante où les invités partagent leurs histoires. Découvrez les arts de la parole et les actualités dans le monde du conte. Autour du conte, dimanche 17h et en rediffusion le mercredi 12h30.
Salut, c'est Philippe Papineau et j'anime l'émission Francophile sur les ondes du 101,5. Pour cette saison, je vous propose une version rénovée et remaniée, maintenant basée sur la présence d'un artiste ou d'un groupe invité. Pendant une heure, le mercredi, de 10h à 11h, on va en apprendre plus sur la création de notre invité. Dans un premier temps, on va parler des œuvres de l'artiste, puis on plonge ensuite dans ses influences, ses découvertes, ses plaisirs coupables ou non, et ses souvenirs musicaux. Francophile, c'est le mercredi de 10h à 11h et c'est aussi en rediffusion le vendredi à midi.
CIBL 105 Montréal. Mon petit cœur avait perdu toute sa chaleur. C'était sombre dans mes yeux, comme un enfant qui voit dans le noir tous ses cauchemars qui se cachent sous son lit. J'étais fragile. Fragile comme les figurines sur l'étagère chez ma grand-mère. J'avais la peau en porcelaine, mes yeux de verre remplis de poussière. Dans le noir, j'étais seule avec le diable. Savoir qu'au fond de toi, je suis là.
le temps ne nous attendra pas. J'ai beau à mettre à genoux en face de toi et te raconter toutes mes histoires lorsque tes mailles découvrent mon corps dans le noir. C'est moi.
Vous êtes sur les ondes de CIBL dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal. Aujourd'hui, on va parler du sous-financement des groupes en défense collective des droits. À un mois du dépôt du budget provincial, le RODCD dénonce cette situation et présente les résultats d'un sondage mené auprès des élus de l'Assemblée nationale. On accueille aujourd'hui Sylvain Lafrenière, qui est coordonnateur du RODC. Je vais le dire au long, en fait, regroupement des organismes en défense des droits collectifs, et Maude Gauthier-Massé, du Comité des personnes assistées sociales de Montréal. Merci à vous deux d'être ici aujourd'hui.
Merci.
Merci à toi.
Ma première question, elle est pour toi, Sylvain. Vous êtes coordonnateur du regroupement des organismes en défense des droits collectifs. Comme je disais, un organisme regroupant plusieurs groupes en défense des droits. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer là, l'impact du sous-financement sur ce secteur qui fait face à des difficultés financières quand même assez importantes là, présentement?
Oui, bien, les impacts sont multiples. C'est pour ça qu'on on a fait des exemples hier en conférence de presse, mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que ça va de toutes les gens. C'est-à-dire que les groupes, premièrement, des fois, ont de la misère à maintenir leur personnel parce qu'on n'est pas capable d'améliorer les conditions de travail. Fait que ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de roulements dans certains organismes. Fait qu'on s'inquiète pour la relève, entre autres, la capacité d'avoir une relève dans les organismes. Puis le suivi des compétences, si on veut, parce que quand les gens quittent, après ça, les gens arrivent. Puis des fois, on n'a même pas le temps dans certains groupes d'avoir la possibilité d'une vraie transition, là, t'sais, le savoir de l'organisme, est-tu vraiment transmis aux nouvelles personnes. Fait que il y a toute cette dynamique-là qui joue à cause de la précarité de la situation de nos groupes. La capacité d'intervention nous demande en principe de faire un travail que nous, c'est de répondre aux services, à la population, naturellement. Puis des fois, on le fait de plus en plus parce que l'État se désengage puis ça repose sur les groupes de plus en plus qui reçoivent des volumes de demandes impressionnants qu'il n'y avait pas il y a 10 ans encore, il y a plus qu'une couple d'années. Fait que ça, on l'entend beaucoup de la part de nos membres là, qui sont débordés. Puis là, ça les empêche de faire le travail qu'on est aussi supposé faire, c'est-à-dire de l'éducation populaire avec les gens, avec les citoyens, mobiliser les gens. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça, là, ou faire même des écrits, des mémoires, intervenir sur la place publique pour dénoncer des lois. Ça demande de l'expertise, ça demande du travail. Fait que des fois, on a carrément pas le temps de faire ça. Fait qu'il y a beaucoup de ça qu'on entend. Puis des fois, c'est juste la capacité de faire les propres activités de l'organisme là, qui est remise en question. Fait que ça dépend un peu des organismes, mais surtout pour les organismes qui n'ont que le financement gouvernemental. Il y en a quelques-uns qui se débrouillent mieux parce qu'ils réussissent à aller chercher. C'est plus difficile en défense collective des droits, vous comprendrez bien. Mais il y en a, quand tu as juste le financement gouvernemental avec les chiffres qu'on a actuellement, c'est très difficile. Tu n'es même pas capable, pour un groupe de base, tu n'es même pas capable de te payer 2 employés actuellement.
Puis vous avez mentionné que vous avez justement donné une conférence de presse sur le sujet hier, aussi pour annoncer les résultats d'un sondage mené au sein des membres de l'Assemblée nationale. Un petit bilan, les grandes lignes.
Les grandes lignes. Bien, c'est ça. D'une part, on n'a pas été complètement surpris, mais quand même déçus du faible taux de participation. On a reçu seulement 14 réponses. Pourtant, les 124 élus ont été approchés actuels. Puis de façon assez imposante, on s'en doutait un peu, mais quand même, à ce point-là, c'est tous les élus de Québec solidaire ont répondu. On a eu des réponses seulement du caucus du Parti libéral et idem pour le Parti québécois qui est arrivé en retard. Aucune réponse, donc, d'aucun élu de la Coalition de Québec, même de la ministre responsable du dossier, ce qui est assez alarmant, qui n'a même pas répondu au dossier. On se demande où est la ministre actuellement qui ne s'occupe pas des groupes qu'elle doit représenter normalement.
Je vais revenir sur les résultats du sondage, mais avant, je vais me tourner vers toi, Maude. Dans le cas de votre organisme, le Comité des personnes assistées sociales de Montréal, vous avez dû choisir entre un employé et une employée surchargée ou deux employés et risquer la santé financière de votre organisme. Puis là, finalement, cette situation a conduit à la fermeture temporaire de l'organisme. Peux-tu expliquer comment cette réalité a affecté votre fonctionnement au quotidien puis les personnes aussi que vous soutenez là, à travers l'organisme ultimement?
Oui, bien, tu sais, fermer un organisme, ça veut dire arrêter l'offre de services temporairement. Donc, tu sais, redistribuer nos dossiers d'aide individuelle des gens qu'on accompagne individuellement dans leur dossier. Ça veut dire aussi arrêter les activités de socialisation ou d'éducation populaire. Le CPAS, c'est vraiment notre but, c'est de regrouper les personnes à cité sociale. Malheureusement, on est incapable de le faire dans une période où est-ce qu'on est fermé, où est-ce que les personnes salariées sont sur le chômage. Je suis sur le chômage en ce moment, là, jusqu'à ce que les portes réouvrent. Puis les portes vont réouvrir, en fait, quand l'argent va rentrer. On estime que ça va être dans 2 semaines, mais, tu sais, on ne peut jamais être certain, certaine.
Puis on est à 1 mois, en fait, du dépôt du budget provincial. Comme je disais, quelles mesures, cette question-là vous est adressée à vous deux, là, quelles mesures urgentes et concrètes aimeriez-vous voir pour soutenir les groupes en défense collective des droits?
Bien, tu sais, on ne va pas se mentir. Là, on aimerait ça que nos subventions à la mission augmentent. Là. Ça serait une première chose qu'on aimerait voir dans le budget provincial pour pouvoir couvrir le taux de la vie qui augmente, couvrir les ressources humaines qui coûtent plus cher, juste avoir une équipe de salariés qui est fonctionnelle.
Ouais. Mm-hmm. Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose?
Je pense à très court terme, la première mesure qu'on se bat depuis 2 ans, maintenant 3 ans, qu'on veut avoir, c'est l'indexation des organismes, la financement, pour au moins ne pas perdre les gains qu'on a faits. Parce que là, tu sais, la ministre le dit souvent, mais on est en partie d'accord avec elle. Tu sais, il n'y a pas eu de financement quand les groupes ont été initialement. Il n'y a pas eu de hausse de financement. On a eu la première hausse 15 ans après. On ne peut pas fonctionner comme ça avec des augmentations peut-être sensibles 15 ans, puis après ça, on se reparle dans 15 ans, ça ne marche pas de même. Il faut au moins minimalement avoir une indexation qui est donnée d'ailleurs à la majorité des organismes communautaires qui sont financés en santé et services sociaux. Fait qu'on se comprend mal la résistance du gouvernement à ne pas la donner aux autres secteurs, dont nous, cette indexation-là, pour ne pas en perdre. Puis effectivement, ce n'est pas suffisant vu qu'on reste quand même le secteur ou l'un des secteurs les moins bien financés de l'action communautaire autonome. Il faudrait qu'on rattrape au moins les autres secteurs puis qu'on aille mieux des meilleures conditions. Donc, il y a effectivement aussi un plan de match pour augmenter les budgets des organismes, donc aussi qui devrait s'amorcer dès ce budget-ci, à notre avis. Parce qu'il y a un petit peu d'augmentation, mais les augmentations qui ont été prévues dans l'actuel plan d'action gouvernemental, bien, les 2 dernières années, ils ne compensaient même pas l'inflation. Fait que c'est ridicule. T'sais. Je veux dire, on parle d'augmentation, puis on ne compense même pas l'augmentation des dépenses des organismes. C'est aberrant, en quelque part.
C'est une grosse question, mais pourquoi vous pensez que le gouvernement, justement, met de côté, vous avez parlé du secteur de l'action communautaire qui est le moins bien financé. Pourquoi, selon vous?
Bien, c'est sûr que, tu sais, on peut avoir toutes sortes d'hypothèses là-dessus. On est bien conscient que tu sais, on dérange. Puis il y a une partie de l'opinion publique, on ne se le cachera pas, qui dit que ça, c'est quand même drôle que le gouvernement finance des organismes qui souvent le critiquent. Mais, tu sais, moi, je réponds souvent à ça, que ça fait partie de la démocratie. Puis soutenir des populations qui doivent se battre des fois contre des entreprises, qui doivent se battre contre un gouvernement, bien, qui sont à faible revenu. Je veux dire, on ne va pas faire fonctionner des organismes d'aide sociale, par exemple, avec des gens qui n'ont pas de moyens, leur demander des cotisations pour financer des organismes de soins. Fait que je pense que ça fait partie du rôle de l'État de financer des organisations qui sont capables d'amener la voix de gens qui, généralement, on n'entend pas ou qui n'ont pas les moyens de se faire entendre.
Si je me permets. C'est quand même une drôle de posture, là, la défense de droits, particulièrement dans le mouvement des personnes à cité sociale, où est-ce qu'on mord la main qui nous nourrit. T'sais, c'est vraiment une dynamique particulière où est-ce que on dénonce l'aide sociale dans le mouvement des personnes à cité sociale. C'est le même ministère qui finance l'aide sociale finance aussi la défense de droits. Donc, tu sais, comme... Puis, tu sais, il y a plein de milieux que c'est similaire en défense de droits. Donc, c'est une dynamique particulière. Puis, ça serait, je pense, difficile de ne pas voir que ça a des impacts dans notre financement.
Mm-hmm. Mais tu dis, c'est ça, c'est la main ne vous nourrit pas assez.
Exact.
C'est ça, ultimement, votre point.
Oui.
Je voudrais revenir sur les résultats du sondage parce que c'est quand même d'actualité. Donc, comme je disais, vous avez mené un sondage auprès des élus de l'Assemblée nationale sur leur connaissance du sous-financement des groupes en défense collective des droits. Quels principaux résultats là, ont retenu votre attention là, des deux côtés?
Bien, je pense que comme, la première chose, c'est encore une méconnaissance des groupes. À la question, par exemple, qu'on posait, c'est quels secteurs sont vraiment de la défense collective des droits. Tout le monde a répondu, toutes ces réponses sont bonnes, alors qu'il y avait au moins deux réponses qui étaient fausses dans le questionnaire. Donc, tu vois que c'est pas encore clair pour les élus, c'est quoi les organismes de défense collective des droits et tout ça. Même si je reconnais que, par exemple, il faut quand même le mentionner, il y a plein d'autres organismes en dehors de nos 350 membres qui font aussi de façon actuelle de la défense collective des droits en santé et services sociaux. Il y en a qui vont faire des représentations contre les lois. Mais c'est contrairement à nous, ils sont pas, ils n'ont pas de reddition de compte. Enfin, nous, on doit expliquer, on doit montrer qu'on a fait de la mobilisation, on doit montrer qu'on a fait de l'éducation populaire. Donc, ça, c'était un peu voulu par nous, mais en même temps, ça nous oblige. Puis c'est sûr que c'est... comme la mission principale. Fait que, tu sais, il y a encore une confusion. Il y a des gens qui se trompaient beaucoup sur le montant qu'on était financé. Il y avait encore des erreurs là-dessus, mais pas énormes. L'aspect positif, si je vois des aspects positifs, quand même, dans les réponses qu'on a eues, mais on aimerait bien entendre, c'est qu'il y avait une question un peu piège parce que c'est qui est un peu d'actualité. Ça revient ponctuellement. On se fait associer à des organismes de lobbyistes, ce qu'on dénonce parce qu'on ne fait pas de lobbyistes. Nous, on défend des intérêts publics. On n'a pas d'intérêt. C'est pas pour nos intérêts personnels qu'on fait des représentations politiques. En tout cas, tous les élus qui ont répondu ont dit qu'effectivement, on ne faisait pas de lobbyistes. Mais comme on n'a pas de réponse du parti au pouvoir actuel, bon, on serait curieux d'entendre sa réaction là-dessus, là, parce que comme aucun des députés de la CAQ, comme j'ai dit tantôt, a répondu, on ne sait pas ce qu'ils en pensent sur cette question-là. Le message semblait aussi avoir passé quand même avec les réponses qu'on a eues sur le fait qu'on est effectivement le secteur le moins bien financé. Mm. Parce que même les réponses, des fois, sous-estimaient le financement réel qu'on avait. Mais c'est ça. Donc, en gros, c'est pas mal ça, les lignes. Je dirais que d'un lacune au niveau de la connaissance, ça ressortait beaucoup, là, de c'est quoi la défense collective des droits. Puis c'est parce qu'on posait la question, c'est sûr qu'on ne pouvait pas aller très loin ce questionnaire-là, mais justement, on expliquait c'est quoi les mandats, ce qu'on appelle, nous, les manifestations, les mandats qu'on doit faire un organisme de défense collective des droits. Bon, la plupart, on réécrit ce qu'on a sur le site Internet, mais on ne pouvait pas jauger de la compréhension qu'ils en ont. Là, c'est sûr que quand tu dis un organisme doit être représentatif de son milieu, mais ça reste vague pour les députés, puis je pourrais donner d'autres exemples. Là,
Maude, pour terminer rapidement, il nous reste une petite minute. Les attentes dans le court terme de votre côté, de votre organisme, tu parlais d'une réouverture dans 2 semaines. On espère, c'est ça?
Oui, exact. On espère pouvoir réouvrir là, au cours du mois de mars et reprendre là, progressivement les activités, mais t'sais, lentement pour être capable d'observer notre régie interne puis adresser les enjeux que le sous-financement engage au fil du temps. Parce que t'sais, quand tu n'as pas assez d'employés pour maintenir le bateau à flot ou que comme la passation d'informations est plus ou moins adéquate entre les salariés, bien, ça l'enclenche des enjeux au niveau de la gouvernance, au niveau de comme l'interne. Donc, on va se concentrer un peu sur l'interne, ouvrir lentement l'offre de services, puis... revenir en force.
Bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'invitation. Merci.
C'était Les Aurores Montréal, votre émission du matin. Florence Acruna au micro et à la conception. Et je remercie Christian Thibault à la régie.
Les Les Ors d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal qui met en lumière les figures de la musique arabe, qu'il s'agisse de chanteurs, compositeurs, poètes et écrivains. Ce programme vise également à clarifier les formes musicales arabes et inclut une station qui parle de musiciennes et de musiciens les plus importants du monde arabe et leurs compositions. Trésor d'Orient, chaque mercredi 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
Zine Tonique, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Chaque mercredi 18h, je reçois une zineur zineuse en rediffusion le mardi 8h sur les ondes de CIBL 105 FM Montréal.
Décadence. Trois heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence.
Les vendredis soirs, dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre
week-end. CIBL, au cœur de la décadence.
Je suis Mélissa et je vous attends à l'émission 20 ans branchés. Chaque lundi, de 8h30 à 9h, on explore ensemble l'impact des technologies numériques sur notre quotidien. Ne manquez pas ce rendez-vous inédit pour commencer la semaine.
Cœur de la culture.
Il est 10h, vous écoutez Francophile.